Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons pour l'émission Tournepage. Et pour cette émission, j'ai retenu deux livres un peu particuliers. Tout d'abord, ce sont les Chroniques du vivant de François Letourneux et Nathalie Fontrelle. Le sous-titre, c'est Les aventures de la biodiversité. Alors, c'est un livre qui se présente sous forme de petites histoires. Et de petites histoires autour des réalités de la biologie, des réalités de notre Terre, qui nous fait prendre conscience de la grande complémentarité qu'il y a entre les êtres vivants. Alors, chaque petite histoire s'intitule, par exemple, je prends la première, « La fin des vrais biocarburants », où l'on découvre comment toute l'aventure a commencé, où l'on mesure aussi combien tout s'accélère sous l'effet de notre grand appétit. Et puis, on va voir des histoires plus précises. Alors, la vie a commencé dans la cellule. La cellule et ses immigrés bien intégrés. C'est une autre histoire. Et c'est une autre histoire où l'on voit que c'est le premier exemple, je cite, d'étrangers qui, en s'installant chez nous, nous ont bigrement facilité la vie. Et on voit que les colocations peuvent durer longtemps. Je vous lis une partie. Ainsi, depuis 2 milliards d'années, si la vie s'est développée en prenant des formes d'une variété et d'une subtilité remarquables, c'est parce que des organismes unicellulaires minuscules, de l'ordre du millième de millimètre, se sont mis à collaborer, à se compléter. Non seulement nous sommes un complexe agencement de cellules, mais chacune d'entre elles est également un lieu d'échange entre des constituants encore plus petits, devenus associés inséparables. Alors, il y a les aventures de la biodiversité, mais on passe aussi aux insectes. Alors, par exemple, ce papillon, qui s'appelle le fulgirator. Le titre, à 10 contre 1, où l'on mesure combien il reste à découvrir, même dans ce que l'on a déjà découvert. Ce qui confirme que les vrais savants sont ceux qui savent l'étendue de ce qu'ils ignorent. Alors, regardons l'histoire de ce papillon. Au XVIIIe siècle, en 1775, Johann Wolsch, théologien et géologue, décrit un beau papillon noir et bleu avec des barres blanches sur les ailes. Conformément au principe défini plus tôt par Linné, il le baptise de deux noms latins, Astraptes fulgirator, c'est ronflant mais flatteur. Ce papillon est assez largement répandu au sud des États-Unis jusqu'en Argentine et notamment au Costa Rica, particulièrement au nord-ouest du pays dans une vaste zone naturelle protégée constituée de forêts. Une équipe de naturalistes conduit une étude de ces papillons. Elle recense les adultes qu'elle peut capturer, ramasse chaque chenille qu'elle trouve, note le nom de la plante qu'elle mange. Les chenilles de chaque espèce de papillon se nourrissent sur un petit nombre de plantes, voire souvent sur une seule, et tente d'élever ses chenilles jusqu'à ce qu'elles se transforment en papillons. Surprise ! Des chenilles d'aspect différent, se nourrissant sur des plantes très différentes, se transforment en adultes de fulgirator. On tente alors de trouver les différences. Souvent, c'est en étudiant les parties génitales qu'on reconnaît l'espèce à laquelle ils appartiennent. On ne trouve rien. Par contre, au début des années 2000, l'équipe fait analyser l'ADN de près de 500 papillons ainsi obtenus. L'examen renforce les intuitions. On est en présence de plusieurs espèces différentes. On en compte 10. Leur forme adulte est identique. Au fond, Walsh, qui n'était d'ailleurs jamais allé en Amérique centrale, a donné un nom à un insecte qu'il n'avait jamais vu vivant. Alors, un vaste programme international a été engagé pour analyser l'ADN de toutes les formes de vie connues sur Terre. C'est un incontestable progrès. Alors, à quoi ça sert ces ailes de papillon? Et c'est là que l'histoire devient intéressante et que ce livre est passionnant. Les ailes de papillon pourraient se mettre au service des énergies renouvelables. Les panneaux photovoltaïques réfléchissent 40% de la lumière et perdent donc en efficacité pour produire de l'électricité. Les scientifiques chinois ont découvert que les ailes d'une espèce de papillon absorbent une très grande quantité de lumière et n'en réfléchissent que très peu. Les ailes de l'insecte sont d'un noir intense. Elles sont composées de plusieurs couches d'écailles rectangulaires qui se chevauchent et qui sont hérissées de crêtes et percées de trous permettant à la lumière de se diffuser. les chercheurs de l'université ont décidé d'imiter la structure de ces ailes pour fabriquer un prototype de panneau photovoltaïque beaucoup plus efficace. Alors, des histoires comme ça, on en regorge dans ce livre. Par exemple, à propos des espèces végétales. Ici, il s'agit de la pilocèle, clémentine et vigne bio. On va semer ou conserver dans certaines parcelles ces mauvaises herbes. Le jardinier peut lui aussi utiliser la stratégie des plantes pour protéger son potager du gel en hiver et du lessivage du sol par les pluies. Des techniques existent comme le paillage ou le compost. Les engrais verts attirent également les insectes pollinisateurs et améliorent la structure du sol. Ce qui veut dire que derrière chaque vivant, chaque espèce, chaque plante, chaque insecte, il y a une ingéniosité de la nature à découvrir. Heureusement, il y a l'insatiable curiosité des chercheurs qui permettent de voir que, au-delà de cette plante, de cet insecte, il y a quelque chose que la nature nous apprend. C'est ainsi qu'il y a tout un passage sur les abeilles, sentinelles de l'environnement. Mais ça, nous le savons bien. Voir maintenant du côté de l'homme. On découvre comment Homo sapiens, longtemps un gros mammifère parmi d'autres, est devenu en 10 000 ans l'espèce envahissante la plus efficace de la planète. Nous sommes 7 500 millions d'habitants, nous étions 1,5 milliard au début du siècle dernier et nous serons entre 9 et 10 milliards en 2100. Et là, cette histoire nous montre comment nous sommes devenus cette espèce envahissante, puisque le nombre total d'hommes, à partir du moment où on a quelques traces, est très stable, autour de 5 à 6 000 personnes pendant une quarantaine de milliers d'années, jusqu'à 20 000 ans avant notre ère. Ce qui montre que, contrairement aux idées reçues, les espèces ne s'autorégulent pas. C'est leur environnement qui les force à s'adapter. En 2013, un printemps pluvieux et froid a provoqué une hécatombe chez les passereaux. La pénurie alimentaire a provoqué une forte mortalité dans les nids et il était bien tard dans la saison lorsque le temps de la migration est arrivé, de telle sorte qu'il n'y a pas eu la multiplication des passereaux. Et puis il y a ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous sommes, nous disent les auteurs François Le Tourneux et Nathalie Fontrelle dans ses chroniques du vivant, un précieux jardin. Nul n'est une île. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Et vice-versa. Et il s'agit de voir comment nous sommes ce jardin. Nous sommes faits de nos cellules, certes. Je lis. Les quelques 10 000 milliards de cellules de notre corps ont toutes les mêmes gènes dans leurs noyaux et les mêmes gènes dans leurs mitochondries. Déjà, les choses se compliquent. Nos cellules sont composées d'organismes plus petits, vivant en symbiose depuis si longtemps qu'ils sont devenus inséparables. Nous sommes donc faits de nos propres cellules et des liens qu'entretiennent à l'intérieur d'elles-mêmes leurs constituants. Mais nous sommes faits aussi de cellules non humaines et nous en possédons 100 000 milliards, 10 fois plus que nos cellules propres. Ce sont d'abord celles de notre tube digestif, notre flore intestinale, 1,5 kg de bactéries appartenant à plus de 170 espèces différentes. Ces cellules non humaines nous constituent, font partie de nous. Nous ne pourrions pas vivre sans elles, ni elles sans nous. C'est en effet grâce à elles que nous sommes capables de digérer nos aliments, si elles ne les transformaient pas en nutriments assimilables. En fragmentant les chaînes de la cellulose, nous serions incapables de nous nourrir seuls. Mais elles font bien plus, etc. Donc, nous sommes un écosystème. Cet écosystème que nous sommes est continuellement exposé à l'action de bactéries et de champignons pathogènes. Nous luttons contre eux grâce à des molécules que l'on appelle des peptides, mais peu importe, que l'on trouve par milliers sur notre peau. Une équipe de chercheurs a choisi d'en étudier une, présente dans notre sueur. Ils ont révélé que sa structure pourrait servir de modèle pour fabriquer de nouveaux antibiotiques. Donc on voit que derrière chaque étude, derrière chaque élément de cette biodiversité, il y a des affaires importantes pour la vie de tous. Alors, l'outre de mer, oursin et laminaire, l'azuré, jamais sans ses fourmis. La nature nous montre aussi, nous donne l'exemple de ces combinaisons qui permettent la vie. Donc, c'est un livre constitué de multiples histoires, les chroniques du vivant, qui est passionnant. Et puis, on peut lire à petite dose. Alors, il y a les histoires de la vie, les histoires des stratégies, les histoires d'humains, qui nous montrent que l'environnement, cette terre qui nous supporte, nous en sommes un des éléments et qu'il est important de découvrir, de protéger, parce que c'est notre maison commune que nous protégeons. Donc je rappelle, les Chroniques du vivant, c'est édité chez Buchet-Chastel. C'est un livre qui reprend des émissions de France Inter et que j'ai le plaisir de vous présenter parce que vraiment, vraiment, c'est quelque chose d'important et c'est aussi d'une curiosité extraordinaire. L'autre proposition, c'est un numéro spécial des études, un hors-série qui s'appelle « La conversion écologique » et d'un tout autre genre, mais là aussi, c'est fait de petits éléments, de petits articles qui se complètent les uns les autres. Il s'agit d'une recension d'articles qui ont été présentés dans les études depuis, non pas la nuit des temps, mais par exemple, il y a un article de 1935, mais il y a ceux aussi qui sont parus en 2012. Donc, quelque chose d'intéressant et qui pose des questions pour notre environnement. L'agriculteur est-il un ingénieur ? Et on revoit avec l'article « La nature retrouvée et la route reprise » que finalement, il y a des intuitions de nos ancêtres agriculteurs. Avec François Varillon, il y a une réflexion sur la mystique de la terre, puisque souvent, dans la religion chrétienne, que l'on a souvent accusé d'avoir suscité, puisque la Genèse nous proposait de cultiver le jardin et de garder la terre, de l'exploiter, souvent, le sens exploité s'est fait aussi dans le sens le plus mauvais du terme. Mais il y a de bonnes questions. Et dans la tradition de l'admiration, de l'adoration de Dieu dans la nature, il y a tout de même déjà implicitement cet attachement de la religion chrétienne à l'environnement. Il y a une question, la terre peut-elle nourrir l'humanité? Il y a les défis de l'environnement, il y a la question de la biodiversité des sociétés, et puis il y a aussi des propositions, et c'est ça qui me paraît intéressant dans cet ensemble, à côté de l'exigence chrétienne de l'écologie, il y a des propositions sur ce qu'il faut faire, ce qui pourrait être fait, l'urgence climatique, une occasion pour l'Europe, l'urgence occultée de la crise climatique, des propositions et des propositions concrètes, la transition écologique, comment. Donc des articles qui montrent qu'il ne faut pas baisser les bras, que si on s'y met tous, eh bien, les choses peuvent changer. Et là où nous sommes embarqués dans l'exploitation quelquefois un peu excessive de la terre, ce qui était possible lorsque nous étions 2 milliards dans les années 60, maintenant, il faut penser que nous sommes 4 fois plus nombreux et qu'il faut prêter attention à notre environnement. L'article « Justice écologique et responsabilité politique » dans l'entreprise, pour les politiques. Donc voilà des histoires importantes pour notre monde. C'est le numéro spécial des études, la conversion écologique. Le sous-titre, c'est « Habiter un monde fini ». Bonne lecture et bonne semaine à tous. Au revoir.